Frédéric Richaud, vous venez de présenter la programmation des Nuits de l'Enclave 2023 qui se dérouleront du 17 au 30 juillet à Valréas, bien sûr, mais également à Grillon, à Richefranche et à Vison. Alors, les Nuits de l'Enclave, historiquement, c'est un peu comme le Festival d'Avignon, c'était un festival de théâtre, et progressivement, le Festival d'Avignon est devenu une manifestation autour des arts de la scène. J'ai l'impression que les Nuits de l'Enclave prennent un peu le même chemin.
Ben, je crois qu'on ne peut pas y déroger, puisque c'est une réalité. La pluridisciplinarité, qui est quelque chose, moi, qui m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire comment on peut rassembler à la fois de la danse, du cirque, du théâtre, de la musique, la poésie, des lectures. C'est vraiment un axe que je veux donner au festival. Et puis, c'est aussi se dire qu'il faut que les habitants puisse s'accaparer ce festival. Si on fait toutes sortes de propositions, c'est pour que aussi le public ne se spécialise pas dans quelque chose de particulier, mais qu'il puisse venir peut-être écouter, peut-être discuter, débattre, pratiquer, voilà.
Peut-on dire que les spectacles qui sont programmés à Richefranche, à Vison et à Grillon sont des spectacles atypiques et qui peuvent attirer ce public-là vers Valréas, où là, on peut avoir une soirée autour de Shakespeare, ou de Tchekhov, ou de Camus, par exemple.
C'est en fait que les gens puissent se dire, c'est fait pour moi. Alors que jusqu'à maintenant, la réflexion qu'on entend, oui, mais le théâtre, c'est pas fait pour moi, j'ai de trop mauvais souvenirs scolaires, voilà. Et c'est se dire, un festival, à mon avis, doit faire cette proposition-là, c'est-à-dire de pouvoir proposer aux spectateurs diverses formes.
Alors, l'ouverture des Nuits d'Enclave va se faire en fin d'après-midi, puisqu'en fait, chaque fois, il y a un double programme. Hein. Ça commence à la fin de la journée et ça se poursuit dans la soirée. Et c'est avec Denis Plassard qui, là encore, c'est un chorégraphe, certes, mais c'est un chorégraphe pas vraiment comme les autres.
Oui, on a fait appel à Denis parce qu'on connaît son travail. On a pensé que c'était l'artiste qui pouvait, dès le départ et dès le début du festival, créer une solidarité entre les spectateurs. Et le meilleur moyen, parce que je l'ai vécu, de pouvoir faire connaissance d'une façon un peu inhabituelle avec d'autres spectateurs, c'est de se mettre à danser ensemble sur une proposition. Et donc, effectivement, pour nous, ça a été la chose la plus évidente.
Et ensuite, eh bien, il y aura une soirée avec quelqu'un qui a marqué vraiment l'histoire des Nuits de l'Enclave, parce que d'abord, il a été apprenti comédien ici même, avec René Jauneau. Et puis, je me souviens que Gilbert Barba, lorsqu'il avait ressuscité les Nuits de l'Enclave, le premier été, c'était Robert Renucci qui avait été invité.
C'était Robert Renucci et Christian Scaretti. Donc, c'était sous l'égide du TNP, le Théâtre National Populaire, qui, bien sûr, fait écho au Festival des Nuits de l'Enclave. Là, moi, j'ai voulu inviter Robin en tant qu'artiste, bien sûr, en tant que, entre guillemets, enfant du pays, puisqu'il a commencé ses premières armes théâtrales avec René Jauneau ici à Valréas, mais je l'invite aussi en tant que directeur de la Criée du Théâtre National de Marseille. Il a pris son poste l'année dernière, ça fera un an, le 1er juillet. Et donc, c'était aussi une façon, comme j'invite Charles Berling, qui est directeur de la scène nationale du Liberté à Château-Vallon, c'était une façon aussi d'inviter des artistes qui sont dans la région, qui sont, on va dire, des figures populaires ou des têtes d'affiche, mais qui travaillent et œuvrent sur le territoire.
Il y a en même temps le désir de faire venir des artistes qui travaillent sur le territoire, le cartoon Sardine, Jeanne Bézier, qui a d'ailleurs été associée aux Nuits de l'Enclave l'année dernière. Mais il y a aussi des compagnies qui viennent du Nord, comme on dit. Par exemple, le travail autour de Shakespeare et de Tchekhov va être présenté par des compagnies qui ne sont pas connues vraiment dans la région.
Absolument. La compagnie du Matamor est une compagnie qui a démarré il y a des années à Paris et qui a été un peu en sommeil quelques années et qui, là, redémarre une activité artistique en la personne de Serge Lipsic, qui en est son directeur et qui a fait tout un travail, moi, qui m'intéresse énormément, puisqu'il a monté Shakespeare, mais il a monté Tchekhov. Il a travaillé dans la forêt. Et il a réussi à emmener des hordes de spectateurs dans la forêt voir des spectacles. Et ça, je me suis dit, à travers le travail que développe Serge, proche aussi d'un travail itinérant qu'on peut retrouver chez nous, je me suis dit, il faut l'inviter. Et en plus, c'est une expérience puisqu'on va être 4 heures ensemble à écouter et à regarder et à voir du Shakespeare.
Autour de Tchekhov, autour de Shakespeare, la journée ou la fin de journée est en deux parties. C'est-à-dire qu'il y a le spectacle proprement dit le soir, mais auparavant, il y a une sorte de préambule qui permet justement aux spectateurs qui n'est pas forcément théâtreux, d'avoir une idée de ce qu'il va découvrir.
Absolument. Pour Shakespeare, ce que j'ai appelé une demi-journée au théâtre, avec Shakespeare et Serge Lipsic, qui animera un atelier de pratique, mais pas que, c'est-à-dire que les gens qui sont curieux de venir découvrir l'œuvre de Shakespeare à travers le titre emblématique de York, qui en fait est la fin, un condensé d'Henri VI et la pièce de Richard III, pourront venir assister soit à l'atelier de pratique, soit venir échanger avec l'équipe artistique qui sera là pour se faire une idée de ce que va être le spectacle le soir. Et pour la petite cerisée, à travers le travail de la compagnie Oblique, on va avoir une analyse chorale qui est une façon différente de rentrer dans le texte qui sera menée par Philippe Guyard, qui est le directeur de l'ANRAT, qui est l'Association nationale de recherche et d'action théâtrale.
J'ai dans la programmation deux propositions qui font partie du catalogue des conviviales et maintenant du CDDV, c'est Momo et la Tour de Belba, qui sont deux spectacles, deux propositions au jeune public. Là aussi, il y a une ouverture aussi vers les jeunes spectateurs.
Oui, on a voulu qu'on puisse faire aussi des propositions, comme on vient de le dire, sur une analyse chorale et sur un temps de pratique. Mais j'ai voulu aussi ouvrir au tout jeune public et pouvoir proposer à des familles entières de venir assister à des représentations. En plus, ces représentations pour le jeune public, le tout jeune public, elles sont gratuites, elles sont simplement sur inscription. Et donc, ça va permettre aussi de pouvoir attirer des gens qui ne vont pas forcément au théâtre à venir voir une représentation.
J'ai remarqué aussi qu'au niveau de l'accueil du public, par exemple, il y a un effort qui va être fait autour du gradinage. Il y a plus d'endroits où on pourrait être assis.
C'est ça. J'ai tenu à ce qu'on aménage les lieux. C'est important de proposer des spectacles de qualité, mais c'est important aussi de pouvoir bien accueillir le public qui vient écouter ou voir une pièce. Et donc, les trois espaces emblématiques qui sont la cour du lycée Saint-Dominique seront agencés de gradins. La cour Jauneau aura un petit gradin de 80 places. Et puis l'espace Jean-Baptiste Niel, où on a toujours cette jauge à 480 spectateurs.
Là, nous sommes à l'intérieur du château de Simiane, de la mairie de Valréas. Il se trouve où le village l'été, pendant les nuits de l'enclave ?
Il se trouve de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on peut le traverser en passant par la cour Jauneau et en allant sur le parking Pagnol, qui est pour l'instant un parking, mais qui, à partir du 15 juillet, devient le village du festival.
Ce village, en fait, il va fonctionner tous les jours. Il y aura toujours se passer quelque chose, même les jours où les spectacles seront ailleurs.
Alors ça, c'est une réflexion qu'on a eue avec la mairie. La mairie, pendant l'été, propose ce qu'ils appellent des festivités estivales. On s'est dit que c'était un peu idiot, que la mairie, de son côté, propose des spectacles, que ce village, les jours où il n'y a pas de manifestation à Valréas ou à Jean-Baptiste Niel, ce village soit désert. Donc on a proposé de faire un travail de rapprochement entre la mairie, la proposition de programmation et le village du festival et de les inclure dans la programmation.
Tout à l'heure, on parlait des soirées autour de Camus, autour de Tchekhov, autour de Shakespeare aussi. Alors, autour de Shakespeare, ça va tourner autour de deux pièces. C'est Richard III, c'est l'une des pièces les plus violentes et les plus cruelles de Shakespeare. Et d'autre part, il y a Henri VI, qui dans la version de Thomas Joly dure 17 heures. Et là, c'est concentré sur 1h40.
Oui, on sera sur une synthèse. Serge a fait des coupures dans Henri VI.
Qu'est-ce qu'il a attiré dans ces deux pièces en particulier ? Le côté historique ?
Oui, je pense que c'est d'une part le côté historique et puis je pense aussi que c'est le côté épique. Cette histoire racontée, il y aura 12 comédiens sur le plateau. C'est rare maintenant une distribution avec 12 comédiens. C'est vraiment le côté épique, c'est-à-dire qu'on va traverser une histoire à travers l'histoire, quoi.
Puis alors, il va y avoir aussi une lecture d'un texte qui s'appelle « Le monologue de Sud » qui, si j'ai bien compris, a été écrit pour un interprète qui doit obligatoirement avoir l'accent d'ici.
Non, ça c'est une boutade que je dis parce que dans le milieu du théâtre, on a cette tendance un peu à gommer les accents. Il y a des auteurs comme Claude Guerre, comme Serge Valetti, comme tant d'autres qui, au contraire, écrivent pour les acteurs qui ont conservé leur accent, dont je fais partie. Et je remarque que la syntaxe, la construction du texte est vraiment dans cette musicalité qu'on peut entendre dans l'accent que l'on a ici dans le Sud. Et c'est un clin d'œil, moi, que je voulais faire à ce texte, d'une part, et puis d'autre part, puisque le texte se moque gentiment un peu aussi des gens du Sud, peut-être de cet excès qu'il y a eu à certains moments à faire du tourisme de grande masse. C'est un peu aussi un clin d'œil à ça, quoi.
préciser que Claude Guerre, l'auteur, est né à Bagnols-sur-Cèze. Donc lui aussi, il est du Sud.
C'est ça.
Donc il sait de quoi il parle. Un petit mot sur l'affiche que je trouve très froufroutante.
Oui, c'est un très bel adjectif. Elle est froufroutante parce que, en même temps, elle dévoile les dessous. Elle montre un ventre avec un nombril. En même temps, elle donne à voir ce qu'on ne voit pas forcément, à part dans du fraîche cancan, peut-être. Et c'est un peu aussi dévoiler ce qu'on ne voit pas forcément. Et donc, c'est aussi à l'image de la programmation que j'ai voulu d'ouverture. Et donc, c'est aussi cette façon de faire la fête, parce que la position des mains, la position de la robe, voit bien qu'on est dans un moment de fête et dans un moment festif, quoi.
Et puis, sous les gradins de Jean-Baptiste Niel, donc, où ont lieu les grands spectacles du Nid de l'Enclave, ben là, il y aura un immense dessinateur, grand artiste engagé, qui va être là et qui ensuite va rester presque en résidence au CDDV.
Ah oui, alors là, c'est une aventure magnifique qui nous est arrivée, puisque Véronique Cabu m'a appelé en me disant que la Comédie Française ne pouvait pas garder l'exposition qui avait été commandée par Éric Ruff, qui a été exposée dans la Maison de Molière de 2018 à 2020. Elle m'a demandé par l'intermédiaire de la Maison Jean Villard si je voulais récupérer cette exposition. Évidemment, j'ai sauté sur l'occasion. On va récupérer l'entièreté de l'exposition qui compte 200 œuvres et qui va, dans un premier temps, être exposée à Valréas, derrière les gradins de l'espace Jean-Baptiste Niel, qui va être exposée très certainement chez certains commerçants de la ville de Valréas et peut-être vers d'autres commerçants de l'enclave des Papes où se déroulera le festival. À travers cette exposition, c'est aussi un cheminement, puisque l'exposition s'appelle « Vive les comédiens ». C'est le résultat des dessins que faisait Cabu quand il allait voir soit des répétitions, soit des représentations. Il a fait l'objet d'un livre assez important. Après, cette exposition dont nous serons dépositaires pourra tourner dans des établissements scolaires, dans des lieux qui sont dédiés aussi aux expositions.
Cabu donc sous les gradins, Camus dans la programmation, Romain Renucci, ancien directeur des Tréteaux de France en ouverture. C'est un beau résumé finalement de l'esprit et de l'éthique des conviviales du CDDV, des Nuits de l'Enclave.
C'est marrant que vous me parliez de ça parce que je regardais le programme d'un ancien journal des conviviales et je me dis que quelque part il y a une continuité dans cette envie d'être au plus près des publics, dans cette envie de donner à voir de la qualité dans la programmation, mais surtout de pouvoir proposer aux spectateurs, pas uniquement des spectacles qui pourraient être considérés comme de la consommation, mais plutôt de participer activement à ce festival.
Ben, cet été.
À cet été, avec plaisir.